Bonsoir. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à l'espace Mendès France. Alors ce soir, c'est un peu particulier. Donc nous accueillons Isabelle Jouteur, qui est maître de conférence à l'UFR Lettres et Langues à l'Université de Poitiers. Et donc c'est un cours qui est normalement donné aux étudiants sur le campus et on a souhaité le délocaliser à l'espace Mendès France pour pouvoir l'ouvrir au grand public et ainsi... Vous pouvez ainsi bénéficier de cette conférence ce soir. Donc voilà. Donc je remercie Madame Jouteur d'être présente. Et puis je vais lui laisser la parole. Et puis bonne conférence. Merci.
Bon, et ben écoutez, merci à vous de cette présentation. Est-ce que vous m'entendez bien pour le son ? Alors est-ce que là vous m'entendez mieux ? J'ai l'impression que c'est très léger. Ou alors je vais prendre le... Ou alors comme ça, c'est mieux. Il fallait peut-être le... Là, vous m'entendez bien ? Alors donc, merci à Céline Nolo pour sa présentation qui double celle que j'avais prévu de vous faire. Donc, je vais aller vite, simplement en indiquant qu'en effet, nous sommes dans le cadre d'une démarche nouvelle, inédite, qui consiste à jeter les bases d'une passerelle entre l'université d'un côté, l'espace Mendès France de l'autre, qui est un espace de diffusion de la culture scientifique. Et donc, cela s'inscrit également dans la lignée d'une position qui avait été affichée par, et adoptée par Yves Jean et toute l'équipe de l'université depuis les années 2012, où nous avions décidé d'ouvrir l'université à l'espace de la cité en créant un dispositif qui s'appelle l'université citoyenne. Donc je profite aussi de cette introduction pour mentionner au public qui est là l'existence de ce dispositif qui permet aux curieux, aux amateurs de culture de venir directement sur les bancs de l'université pour suivre des cours. Il y a tout un panel de cours qui sont maintenant offerts au grand public. Alors je remercie bien évidemment les acteurs de cet espace culturel, y compris ceux qui ne sont pas présents mais qui nous ont néanmoins reçus toujours très chaleureusement, Didier Moreau, Jackie Deniol, pour leur accueil dans la maison et leur attention particulière aux humanités classiques. Dernier point, cette conférence fait suite à une autre qui a été donnée l'automne dernier par Jean-Philippe Guèze sur l'astronomie. Donc l'idée, c'est de créer un cycle de conférences. Alors, pourquoi le mythe d'Europe ? Eh bien, parce que nous sommes européens. Il y a 2 ans, en juin 2016, on a assisté à la victoire du Brexit après le vote soumis aux Anglais. Et avec cet événement, nous avons assisté à un retour des interrogations sur ce que c'est que l'Europe, sur ce que nous voulons en faire. Alors, est-ce que l'Europe, c'est uniquement une question d'argent ? Le débat a été relancé lors de la campagne des présidentielles avec des programmes vraiment très différents selon les candidats. Et il se trouve que derrière l'Europe se superposent plusieurs réalités dont nous allons parler de manière plus détaillée. De manière tout à fait basique, vous savez que l'Europe, c'est à la fois un continent, une entité géographique, l'union politique d'un certain nombre d'États, une construction monétaire, vous avez vu l'euro, un espace présentant des traits culturels qui le différencient d'autres cultures, d'autres continents, et finalement sans doute un ensemble mouvant qui doit être pensé dans des termes dynamiques. Or l'Europe, c'est également un mot qui vient de très très loin, et c'est sur ses racines que nous allons réfléchir en examinant ce qu'est devenue l'Europe à partir de l'origine du terme qui désigne cette réalité géographique, politique, culturelle, monétaire. Ce terme a lui-même une histoire susceptible de nous éclairer sur nos racines et il est associé à un mythe gréco-romain qui a traversé le temps depuis l'Antiquité la plus reculée jusqu'à aujourd'hui. Donc prendre connaissance de ce mythe, c'est regarder un élément fondateur de cette fameuse identité européenne. Donc, nous allons nous attarder sur ces questions d'identité. Donc, premier point, le vocable « Europe » est issu de la mythologie gréco-latine avec un ancrage dans le bassin méditerranéen. Je vais donc commencer la conférence par rappeler le mythe dans ses grandes lignes. Vous avez ici une représentation dans laquelle vous voyez deux personnages, une jeune fille d'Asie mineure, phénicienne en réalité, qui déclenche le désir du dieu des dieux, Jupiter. Alors vous ne voyez pas Jupiter parce qu'en réalité, il se change en taureau, vous le savez sans doute, pour éviter de susciter la jalousie de Junon et agir discrètement. Il enlève la jeune fille qui cueillait des fleurs sur le rivage et en l'emmenant sur son dos, Jupiter traverse les eaux. Et le couple arrive dans une île, la Crète, près de la ville de Gortyne, où ils s'unissent près d'une source sous un platane sacré. La jeune fille donne son nom au nouveau continent et elle devient la mère de toute une dynastie, Minos, le roi de Crète. Et c'est le début de la civilisation minoenne. Elle se marie également avec Astérios, le roi de Crète. Le motif mythique a traversé le temps jusqu'à l'iconographie moderne. Et vous voyez ici une image que j'ai sélectionnée parce qu'elle date de 1910 et qu'elle a été composée par un peintre russe. Ça me semble intéressant de faire ces bons géographiques. Donc c'est ici une peinture de Valentin Serov et vous voyez que le peintre a choisi de mettre en valeur le voyage sur les flots avec une posture de la jeune fille assise à genoux alors qu'en général vous la verrez assise plutôt de biais sur le côté ou à califourchon. Et ce qui me plaît dans ce tableau, c'est la dominante remarquable des bleus. De fait, les sources anciennes insistent sur les liens de l'héroïne avec l'élément marin. On va y revenir. L'orientation de la trajectoire du couple est conforme à la lecture du regard de la gauche vers la droite, alors que souvent, dans les autres tableaux que je vais vous montrer, le couple voyage de l'autre côté selon la trajectoire du périple géographique. D'est en ouest. Donc ici, c'est une inversion par rapport à ce que l'on trouve la plupart du temps. Une ramification de ce mythe, puisque là, je vous ai parlé uniquement donc, du personnage féminin d'Europe, concerne l'ensemble de sa famille. Et voici donc l'arbre généalogique avec le père d'Europe, Agénor, qui, au départ de la jeune fille, va envoyer ses frères à sa recherche. Et parmi ses frères se trouve Cadmus, qui va voyager. Et les périples de Cadmus et de ses frères donnent lieu à des colonies, des fondations de cités, l'instauration de cultes nouveaux, comme par exemple la fondation de la cité de Thèbes par le frère d'Europe. Et selon une tradition, Europe est emmenée en Béotie, près de Thèbes. Les habitants de cette cité grecque de Thèbes, là je ne parle pas de l'Égypte, hein, je parle de Thèbes en Grèce, les habitants de cette ville sont appelés les Cadméens. Alors les linguistes qui ont réfléchi à ce mythe ont proposé une analyse phonétique et structurelle de son nom. Europe pourrait dériver du phénicien Arb, reconstruit sur le mot hébraïque Ereb, qui signifie le soir, et renvoyé au couchant du soleil, via la racine sémitique Ereb, avec du coup cette image d'un voyage qui prend la direction du coucher du soleil. Et l'hypothèse est corroborée par le rapprochement que l'on peut faire entre le nom de Cadmus et le mot sémitique Cadme, qui désigne l'Orient. La deuxième hypothèse ou la deuxième analyse que l'on a forgée sur le terme d'Europe vient de l'adaptation qu'en font les Grecs. Les Grecs transforment la prononciation et ils en font un mot qui signifie large vue, puisque Europe peut se décomposer alors en deux parties. La première partie, Eurus, qui va désigner la largeur, la profondeur ou la couleur sombre, et le nom Ops, que vous trouvez dans optique, qui va désigner le regard, voire de manière plus large, le visage. Donc, alors, dans ce cadre-là, Europe, c'est la fille au regard profond, ou la fille aux yeux largement ouverts, ou encore la fille qui écarquille les yeux de stupeur. Alors, les grands yeux étaient aussi un critère de beauté. C'est là encore une interprétation. Donc, parmi d'autres interprétations encore, on a pu supposer que c'était la déesse de l'obscurité, en se fondant sur l'idée que Eurus renvoie cette fois-ci à ce qui est sombre, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc vous voyez, les linguistes ont beaucoup d'imagination, ils lancent plein d'hypothèses et après chacun se fera son idée sur l'hypothèse qui lui semble la plus probante. En tout cas, Europe serait alors l'éponyme du pays du soleil couchant. Qu'en pensent maintenant les historiens ? Les historiens voient dans ce mythe une représentation symbolique de la pénétration de l'Asie en Occident. C'est une interprétation parmi d'autres et vous allez en voir, j'espère que vous n'aurez pas le vertige dans trois quarts d'heure quand on aura terminé. Parce que de toute façon, un mythe excède toujours ce que l'on peut en dire. Mais à l'heure où on parle d'identité européenne, il me semble quand même intéressant de se souvenir que le continent européen doit son nom à une princesse proche-orientale d'origine phénicienne. Et la Phénicie, j'ai oublié de le dire, ça me semblait un petit peu évident, mais c'est le pays actuel du Liban. Alors, le Liban, c'est la Phénicie. Oui, je n'ai pas les moyens de pointer, mais enfin, vous avez l'encadré ici avec la partie qui est en verte. Donc voilà le point de départ d'Europe qui, dans la mythologie, a donné son nom au vocable que nous utilisons maintenant tous les jours sans bien savoir d'où cela vient. Donc découvrir les origines du mythe, c'est regarder différemment le présent à la lumière des circonstances particulières qui ont donné lieu à un ensemble d'images et de textes. D'accord, très bien. Merci. Donc en tout état de cause, il y a un paradoxe, hein, puisque le mot Europe, aussi bien le terme que le mythe, vient d'un pays non européen. Voilà, ça c'était le premier point sur lequel je voulais insister. Pour clore cette introduction, où j'ai rappelé le mythe, je vous dirais également qu'il n'y a pas une seule Europe dans la mythologie, mais plusieurs figures féminines qui forment un ensemble non homogène. Et un mythe, comme vous le savez sans doute tous, c'est un ensemble de variantes. Donc, s'il y a eu plusieurs Europes dans les textes et l'iconographie, les fresques, les statuettes, les vases, les tableaux anciens ou contemporains, il est intéressant de voir de quelle façon s'est organisée la sélection entre toutes ces variantes, très complexes, et de voir ce que la tradition a retenu, de voir quelle a été la figure dominante jusqu'à nos jours. Et la façon dont le mythe est raconté au fil du temps va traduire en réalité les préoccupations de chaque époque. Alors, je vais donc remonter dans le temps et partir des origines. Donc, à l'origine, Europe, c'est un terme qui correspond à des réalités plurielles. Si on remonte à l'époque de la période grecque archaïque, Europe désigne plusieurs personnages féminins, notamment une déesse de la mer, mais aussi un continent au contour trouble. Donc là, je quitte le domaine de la mythologie pour entrer dans le domaine des témoignages de l'archéologie et des textes que nous pouvons lire. Donc, le premier point, c'est qu'il y a plusieurs personnages féminins dans les textes de la littérature grecque archaïque. La plupart du temps, c'est une princesse de sang royal. Chez Homère, c'est la fille de Phénix et de Téléphassa, les souverains de Tyr, en Phénicie, que vous voyez dans l'encadré bleu. C'est l'actuelle ville de Sour au Liban. Pour Hérodote, un historien grec, elle est la fille du roi de Sidon, Agénor, mais elle est également libanaise. Et d'autres témoignages en font une océanide. Est-ce que vous savez ce qu'est une océanide ? C'est une nymphe aquatique. Donc c'est un petit peu différent. Alors, on peut la présenter, comme Hésiode le fait, comme l'une des 3000 océanides ou encore l'une des 40 filles aînées de Thétis et Océan. Et Pindare, un grand lyrique grec, en fait l'épouse de Poséidon, le dieu de la mer, et la mère de l'un des Argonautes. Ces témoignages se relient à une tradition très diffusée dans la zone péninsulaire de la Grèce et dans les îles de la mer Égée, qui fait d'Europe une déesse de la mer, d'où le lien constant que nous verrons dans l'iconographie entre la figure de cette femme mythique et la mythologie marine. Alors là, vous voyez un tableau de Noël-Nicolas Coypel, un peintre français du XVIIIe siècle. C'est un sommet de la peinture baroque, avec un tableau marqué par le mouvement, la profusion des personnages. Vous voyez Europe au milieu. Donc en fait, il faut que je le fasse ici. Voilà, vous voyez Europe ici, montée sur un taureau tout à fait gracieux, gracile, avec une jolie guirlande de fleurs ornant la crête, enfin l'espace entre ses cornes, et puis toute une espèce de bacchanale marine exprimant la tension du désir entre les deux personnages. Le couple est en effet entouré par une multitude d'autres couples qui démultiplient l'ardeur amoureuse. Donc ce que le peintre a voulu montrer ici, c'est le feu de la passion qui couve, avec sur le premier plan un triton qui va célébrer l'hymen ici en soufflant dans une conque, tandis que le ciel est traversé par une multitude d'angelots potelés qui virevoltent parmi les nappes nuageuses. Donc ce lien entre l'Europe et la mer vous fait peut-être penser à une autre figure féminine très connue qui est réputée être née dans les flots. Je pense à Vénus. Vénus Anadiomède, hein, dont le lien avec l'élément aquatique est là encore prépondérant. Donc il y a sans doute des liens intimes avec des phénomènes de transposition ou de contamination entre les personnages. En tout cas, si on constate un flottement sur l'identité du personnage, puisque je vous ai parlé soit de déesse marine, soit de fille de roi, il y a quand même l'attestation de l'enlèvement de la jeune fille par Zeus, dans les textes de la période grecque archaïque la plus reculée. Donc nous pouvons être sûrs que cette légende dont nous parlons aujourd'hui est très ancienne, puisque Homère, c'est quand même une période très 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 reculée. Du côté de la géographie, Europe désigne pendant cette période archaïque certaines régions de la Grèce, ou bien le continent européen, ou encore des divinités locales. Donc vous voyez, il y a plusieurs significations, interprétations de ce terme. Donc dans l'hymne homérique à Apollon, par exemple, qui date de la fin du 8e siècle et du début du 7e siècle avant Jésus-Christ, ce nom d'Europe est utilisé comme indication géographique, et il renvoie à la Grèce continentale par opposition au Péloponnèse et aux îles de la mer Égée. Mais ce nom est donné également à des divinités. Alors voici une carte de la Grèce qui regroupe un certain nombre de localités dont nous allons parler. Mais donc ce nom est donné également à des divinités terriennes dans la Grèce continentale. Il est question de Déméter Europée en Béotie, d'Europos en Carie et en Thessalie, ce qui fait que ce terme sert à dénommer en réalité plusieurs zones de la Grèce antique. Et nous nous apercevons que le nom d'Europe est lié tantôt à la Crète tout en bas, tantôt à la Béotie, tantôt à la Thrace, tantôt à l'Épire. Alors la Crète est là, la Béotie est là, le B est là, la Thessalie, la Thrace. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes régions. Et pourtant, on a utilisé le terme d'Europe. Cette propagation du nom d'Europe en Béotie, en Macédoine, en Thrace, correspond au périple légendaire des deux frères de la princesse phénicienne partis à sa recherche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et nous avons un témoignage de l'archéologie avec un vase qui a été retrouvé en Béotie. C'est un métope, un panneau architectural qui décorait en fait un vase béotien datant du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et nous avons là une représentation figurée, tronquée, mais dont on suppose qu'elle serait celle d'Europe. Vous voyez une femme assise sur un taureau avec les jambes pendantes. La jupe est décorée d'une bande verticale brodée. Et le taureau apparaît ici dans un style crétois. Donc on suppose qu'il s'agit ici d'Europe. Alors l'origine du continent européen viendrait des limites orientales et occidentales dessinées par le périple des migrants de ces deux frères d'Europe. Et le toponyme Europe correspondrait alors à la terre d'accueil de ces exilés. Donc c'est une histoire de migration avec des migrants qui abordent la Grèce par l'Est et qui remontent en Thrace avant de se diriger vers la Grèce centrale et de s'établir à Thèbes, ou qui passent au contraire par le Sud. On a donc des documents archéologiques et littéraires qui révèlent une expansion phénicienne en Crète, en Béotie, en Thrace, dès l'âge du bronze, avec un développement spectaculaire de Thèbes vers 1600, entre 1600 et 1300 avant Jésus-Christ. Donc là, vous voyez qu'on est remonté encore bien plus haut que la période homérique. Donc tous ces éléments dont je vous ai parlé rapidement dessinent une aire géographique qui établit un lien entre la jeune fille et le territoire avec un phénomène migratoire d'est en ouest selon deux directions, soit par le nord, soit par le sud, soit par la Thrace, soit par la Crète. Je descends maintenant dans la période grecque classique. Nous allons donc passer maintenant aux alentours du 5e siècle avant Jésus-Christ, avec une période qui est celle des débuts de l'histoire et de la géographie, avec notamment le témoignage de l'historien Hérodote, qui au 5e siècle avant Jésus-Christ va regarder ce mythe avec une approche déjà critique. Il s'interroge sur l'origine du nom Europe et doute qu'il y ait un lien entre le mythe du rapt de la jeune fille et l'appellation territoriale. Il constate l'existence de deux notions proches, l'anthroponyme et le toponyme, qui semblent coexister, sans qu'apparaisse pour lui de lien logique entre les deux. Alors, il faut dire que pour Hérodote, sa représentation de l'espace est conforme aux deux cartes que je vous montre ici, qui sont différentes, mais néanmoins plutôt dissemblables de la représentation que nous pouvons faire de l'espace avec les mesures que nous en faisons aujourd'hui. Il indique qu'il ignore l'origine du vocable Europe, mais surtout il explique que la cavalière marine du mythe n'a jamais mis les pieds dans la région qu'il appelle à son époque Europe, puisqu'il explique que selon le mythe, elle est arrivée en Crète et pas dans la partie de la Grèce qui est rattachée au continent, précisément. Donc, il glisse à une réflexion selon laquelle le mythe du rapt de la jeune fille serait en réalité la traduction d'un antagonisme entre les Grecs et les Asiatiques, notamment les Perses et les Phéniciens. Et il met en parallèle cette histoire de rapt avec un fait d'histoire, puisque il y a eu des guerres qui portent le nom de guerre médique, qui ont opposé les cités grecques et l'empire perse au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il retrace à partir de là toute une série d'éléments mythiques. Des Phéniciens ont en effet enlevé Io, la fille d'Inakos, ils l'ont emmenée en Égypte. Des Crétois ont riposté, c'est la version qu'il donne du mythe, des Crétois ont riposté alors en enlevant Europe, la fille du roi de Tyre en Phénicie. Et alors les Argonautes en Grèce ont enlevé Médée, la Colchidienne. Et les Troyens ont enlevé la belle Hélène à leur tour. Et donc il y aurait eu selon lui un espèce de match de ping-pong avec une série d'enlèvements de jeunes filles de part et d'autre entre les deux zones territoriales. Et il y a là en tout cas l'indication d'un antagonisme entre ces deux zones géographiques-là. Donc ce qu'on peut retenir du témoignage d'Hérodote, c'est qu'il va délimiter l'Europe comme un territoire qu'il sépare de l'Asie et qu'il pense dans les termes d'une opposition à l'autre et à un autre qu'il s'agit plutôt de rejeter. Et ça, c'est quand même très, très intéressant. À cette époque-là, qu'est-ce qu'on a comme témoignage iconographique? Eh bien, déjà, toutes sortes d'objets. Là, vous voyez ici une hydrie qui a été conservée à Rome, dans laquelle la mer est indiquée de manière stylisée par deux petits dauphins et deux poissons. Europe et le taureau sont guidés par un volatile, sans doute l'aigle emblématique de Zeus. Ils sont suivis par un personnage ailé, sans doute une messagère du dieu qui porte une couronne nuptiale. Et il y a l'indication d'un mariage à venir entre les deux personnages. En tout cas, vous voyez ici que la représentation est très stylisée. Et puis, autre témoignage ici, un cratère en cloche de Tarquinia, dans lequel le peintre a créé un nouveau schéma dans la position de la déesse cavalière qui se trouve debout à l'arrière et qui tient justement le dieu animal de la main en s'accrochant justement à l'une de ses cornes pour se laisser tirer. Et donc l'héroïne ici n'est pas figée. Son attitude est plutôt confiante. Ce n'est pas un rapt violent. C'est plutôt ici une acceptation de la part de la jeune fille de voyager en toute intimité avec le dieu animal. Sur le nombre de continents, puisque nous parlons de la géographie, on a hésité pendant longtemps. On a pensé qu'il y en avait deux ou trois. Et les témoignages diffèrent pendant une bonne partie de l'Antiquité. Soit on groupe l'Asie et l'Afrique en un seul bloc et alors on a deux continents, soit on envisage la séparation entre les deux, et là on a Europe, Asie et Afrique, et on pense que le monde est constitué alors de ces trois continents qui flottent sur un océan d'eau, hein, puisque évidemment la représentation de la Terre n'est pas celle que nous connaissons, et on imagine plutôt que la Terre est entourée justement de l'élément liquide. Selon l'hypothèse d'une chercheuse antiquisante, l'assimilation entre l'anthroponyme, c'est-à-dire la jeune fille originaire de Tyr, et le nom géographique serait le résultat d'une propagande politique menée au IVe siècle par Philippe de Macédoine, et cette assimilation répondrait à la volonté de créer une union des Grecs et des Macédoniens contre leur ennemi commun, le barbare oriental. Donc vous voyez que les choses sont quand même très complexes. En tout cas, l'assimilation entre le territoire et la jeune fille semble bel et bien être une construction de l'histoire. C'est-à-dire que cela n'a pas été de soi, ce n'est pas une évidence. Nous descendons encore un petit peu dans le temps et nous arrivons maintenant à la fixation du mythe pendant la période hellénistique. Alors, la période hellénistique, c'est le nom que l'on donne à une période qui s'étend de la mort d'Alexandre en 323 avant Jésus-Christ jusqu'à la conquête romaine en 31 avant Jésus-Christ. C'est donc une période de conquête, de grande monarchie, de brassage culturel, d'extension de la culture grecque dans le bassin méditerranéen. C'est aussi sur le plan de la littérature et des sciences une période de compilation où les scribes, les intellectuels vont compiler les textes qui ont été écrits dans les périodes qui les ont précédées, ils vont les commenter, ils vont les réécrire, ils vont les conserver, ils vont faire des bibliothèques, ils vont s'adonner à une exégèse des textes anciens. Et c'est dans ce contexte-là que nous allons constater un regain de notoriété du mythe d'Europe avec un poète de langue grecque qui vit au IIe siècle avant Jésus-Christ à Syracuse. Donc là, nous allons voyager à Syracuse après être partis donc, du Liban. Et Syracuse est fondée par des Corinthiens, donc des Grecs, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Elle rivalise ensuite avec des comptoirs phéniciens à l'ouest de l'île. Et vous avez là donc, en plein milieu du bassin méditerranéen, une cité qui appartient aujourd'hui au territoire de l'Italie, mais qui à l'époque est une colonie grecque et qui est l'une des colonies les plus brillantes de la Méditerranée. Et c'est dans ce contexte-là que se trouve un poète du nom de Moskos. C'est lui qui occupe finalement la plus grande part de l'exemplier que j'ai fait circuler. Et c'est lui qui écrit ce texte absolument magnifique. Voilà, donc je tenais absolument à le diffuser. Parce que j'aime beaucoup ce texte-là et notamment, vous allez voir là au tableau comment ça se présente. Voilà, c'est écrit comme ça. Et si ce texte de Moskos n'avait pas été utilisé, je ne suis pas sûre qu'Europe aurait eu autant de succès. En tout cas, dans l'iconographie, c'est évident. Parce que vous allez voir, j'ai peut-être 50 images dans le PowerPoint, on ne va pas tout voir, je ne vais pas non plus vous accabler, ce n'est pas le but. Mais si le mythe a eu, du côté de l'iconographie, la fortune qu'il a eue, c'est aussi parce que précisément, il ne se réduit pas à une histoire de politique et une histoire de territoire. C'est aussi une histoire d'amour. Et l'histoire d'amour, elle est racontée par ce poète de langue grecque qui vit donc sur cette île au milieu de la Méditerranée, qui est une île qui se situe à un carrefour entre plusieurs civilisations, les Latins, les Italiens au nord, les Africains, les Puniques au sud, les Grecs au nord-est, les Égyptiens un peu plus bas, et les Phéniciens, les Libanais, complètement à l'est. Et donc, il y a ce phénomène de brassage culturel qui fait qu'on va avoir donc deux témoignages, un témoignage textuel avec Moskos et un témoignage de l'archéologie concernant le mythe d'Europe. Alors, j'ai tenu à mettre justement parmi mes diapos le début de ce poème de Moskos, tout simplement parce que le premier mot, même si vous ne connaissez pas l'alphabet grec, vous allez le reconnaître quand je vais le lire. Donc, Europae, voilà le premier mot que j'ai mis en grec. Europae, potè, cupris, epi, glucine, glucune, eken, oneiron, nuctos, otetritanon, lacos, istatai, eguti, deos. Voilà, je me suis amusée à le lire en grec, parce que vous voyez apparaître donc en gras le premier mot avec l'alphabet grec qui correspond donc au vocable Europe, tel que je vous l'ai expliqué. Alors, on n'a pas le temps de lire le poème. Les étudiants, vous le lirez tranquillement chez vous. Et surtout, nous travaillons en cours sur la version latine, sur l'une des versions latines que nous possédons. Mais néanmoins, je vais vous le résumer. Je vais le paraphraser un peu. Alors, ce texte magnifique commence par un rêve. C'est bien de rêver dans la vie. Le poème s'ouvre sur le rêve prémonitoire de l'héroïne qui est allongée dans sa chambre du palais de Sidon. Et elle rêve qu'elle se trouve partagée entre deux mers. Deux mers qui vont être figurées par deux territoires sous la forme d'une personnification. D'un côté, la terre d'Asie, qui est donc sa terre biologique, assimilée à sa patrie. Et de l'autre, une terre qui n'a pas de nom et qui est qualifiée de terre opposée, en face, de l'autre côté. Et la jeune fille, dans son rêve, se voit obéir sans résistance à l'appel et aux injonctions de cette mère adoptive. Et donc, au réveil, après ce rêve surprenant, elle désire que le rêve se réalise. Alors, le thème du rêve est très fréquent dans la littérature antique, où les grands événements sont accompagnés de rêves prémonitoires. Vous savez peut-être que Jules César, avant de traverser le Rubicon et de déclarer la guerre à Pompée, en a fait un très célèbre. Et Moskos, le poète grec, n'insiste pas trop sur les éléments douloureux que vivront la jeune fille, puisqu'elle va quand même vivre une situation de séparation violente, voire brutale, avec sa vie bien douillette en Phénicie. Et le rêve nous est décrit comme envoyé par la déesse de l'amour, Vénus Aphrodite. Et ce rêve se présente donc comme un appel irrésistible vers une union souhaitée et désirable avec un dieu sous la houlette d'une mère qui va personnifier le nouveau continent. Donc c'est vraiment une belle histoire. Et ce rêve est présenté comme une réalité objective, dotée presque d'un caractère véridique. Hein ? Ce rêve est symbolique, il est oraculaire dans le sens où il correspond à un événement qui va se réaliser, mais il est symbolique aussi car il habille de métaphores une interprétation. Et donc ce rêve est en même temps politique, familial. Elle ne voit pas d'ailleurs dans son rêve d'homme, elle ne voit pas non plus de taureau. Donc toute la dimension sexuelle du rapt est pour le moment gommée et le poète insiste sur ce désir irrépressible qui l'appelle vers l'étranger. Dans une deuxième section du poème, le poète décrit une scène très gracieuse de cueillette de fleurs. La jeune fille, en compagnie de ses amis, a voyagé sur le rivage de Sidon, dans une prairie en bordure de la mer, dans un cadre qui rappelle des paysages que l'on trouve dans le genre de l'idylle. Et de fait, ce poème se rattache au genre de l'idylle. Alors, l'idylle, c'est un mot qui est passé dans le vocabulaire courant, que vous connaissez, qui désigne donc un contexte agréable de rencontre sentimentale entre deux êtres. Mais le mot d'idylle vient aussi du mot grec eidolon, qui désigne l'image. Et de fait, le poète a composé son poème comme une succession de tableaux, comme une succession d'images gracieuses. C'est la raison pour laquelle je vous disais qu'il a servi de support probablement à l'iconographie. Donc le premier tableau, c'était le rêve d'Europe. Et la suite, c'est l'épisode de la cueillette. La cueillette, eh bien, c'est l'occasion pour le poète de brosser une scène délicate dans laquelle s'ébattent de tendres jeunes filles occupées à cueillir le narcisse, l'hyacinthe, la violette sur un sol couvert de pétales. Et le poète indique alors que la jeune fille ne conservera pas longtemps sa ceinture. Donc là, je pense que vous avez compris, sans doute un petit peu tous, les allusions. Bien évidemment que le motif de la cueillette est symbolique, doublé de celui de la fleur, doublé encore de celui de la ceinture, au cas où on n'aurait pas compris, il annonce la perte de virginité toute proche de la jeune fille. Et d'ailleurs, à l'arrivée du couple dans l'île de la Crète, Zeus lui dénouera sa ceinture, là encore de manière tout à fait symbolique, et elle sera déflorée. La jeune fille connaîtra d'ailleurs toute une série de pertes, mais Moskos ne va pas insister sur les éléments problématiques. Il va auréoler cette histoire d'éléments tout à fait gracieux, tout à fait agréables, tout à fait séduisants. Donc avant que le dieu n'arrive sur le rivage, il y a d'autres tableaux, et notamment le poète enchaîne avec une parenthèse qui consiste à décrire la corbeille dorée que tient la jeune fille et dans laquelle elle va disposer ses fleurs délicatement cueillies. Cette corbeille est gravée d'incrustations qui vont préfigurer son enlèvement, et cette corbeille, sculptée par Héphaïstos, représente une histoire, celle d'Io. Alors Io, j'imagine que vous ne connaissez pas son histoire, vous la connaissez ou pas? Alors Io, c'est une jeune fille aimée de Zeus et qui sera changée en génisse pour être soustraite à la vengeance de Junon. De là, Io partira en Égypte et deviendra la déesse Isis. Donc vous voyez sans doute les points de rapprochement qu'on peut faire entre le sort que connaît Io et le sort que connaîtra bientôt Europe. Europe est en train de tenir à la main une corbeille dont les motifs vont figurer dans une mise en abîme tout à fait savante et sophistiquée, une histoire qui sera également celle que la jeune fille s'apprête à vivre. Donc vous avez un poème qui date du IIe siècle avant Jésus-Christ et qui présente une mise en forme littéraire tout à fait remarquable, avec un récit élaboré, sophistiqué, un espèce de bijou d'orfèvrerie que j'adore, avec une composante plastique tout à fait remarquable, et que j'ai eu envie de mettre en relation avec ce tableau que vous voyez ici, et qui a été peint par Martin de Vos, un peintre flamand, dont le style maniériste résonne de mon point de vue remarquablement bien avec la sophistication formelle du poète alexandrin, de ce poète donc syracusain. Je dis alexandrin parce que je fais référence à un modèle d'écriture, à un courant littéraire, à une veine esthétique. Donc là, c'est un tableau qui est conservé au Musée des Beaux-Arts de Bilbao. Et dans ce contexte de la fin de la Renaissance, on est en 1590, vous voyez que ce qui a intéressé le peintre, c'est la beauté des corps, avec une représentation académique du corps nu d'Europe dans le respect des proportions, avec une légère torsion, une chair tendre et blanche, avec le ventre bien proéminent au centre de la toile, et puis le jeu gracieux des voilages dans les tons rose et rouge, avec une coloration légèrement acide qui correspond à celle des maniéristes. Et le style pictural va traduire la grâce et la passion. Du côté du visage de la jeune fille, elle tourne son regard en arrière et cette torsion va symboliser l'arrachement à la patrie. Alors vous avez un contraste chromatique appuyé entre le rouge et le jaune des deux voilages, avec une disposition spatiale de ces voiles qui forment une boucle qui enserre l'héroïne, ainsi placée en majesté dans un espèce d'anneau qui sert à mettre en valeur une nudité rayonnante, certes fragile, mais en même temps triomphante. Quant au taureau, il n'a rien d'effrayant. Je pense que nous le suivrions sans hésiter. Il est doté d'un regard pacifique, décoré de guirlandes nuptiales. Son pelage est neigeux, sans doute tout à fait doux. Et à l'arrière, on a la représentation conventionnelle d'un rivage peuplé de créatures nombreuses avec les amis qui lèvent le bras au ciel, un temple à colonnades. Donc voilà un tableau tout empreint de délicatesse qui correspond, je trouve, bien à l'esthétique du poète grec. On en arrive à l'épisode de l'enlèvement. Lorsque le taureau donc fait irruption devant la jeune fille, il la séduit par son apparence docile, il porte un disque d'un blanc lumineux sur le front, et la fascination est réciproque entre Europe et le dieu déguisé. L'érotisme s'exprime ici avec grâce, la jeune fille tend la main, elle caresse le museau de la bête, essuie l'écume qui tombe de sa bouche, lui donne un premier baiser. La scène est tout à fait galante, ornée également de parfums. Et le poète nous dit alors que le taureau a une divine odeur. Alors j'adore cette divine odeur du taureau. Il nous dit que cette odeur domine le souffle embaumé de la prairie. Et voilà le dieu qui pousse un tendre mugissement. Et que ce mugissement est comparé au son harmonieux de la flûte mygdonienne. Donc on est vraiment dans une atmosphère pastorale tout à fait gracile. Et la jeune fille, conquise, propose à ses amis de monter sur le dos de la bête pour s'amuser. Et à peine a-t-elle montré l'exemple, qu'évidemment le taureau se lève, bondit, et il l'emporte sur les flots azurés. Le rapt a été tout à fait subi. Vous avez ici une autre représentation du moment du départ, avec la vision qu'en donne cette fois-ci Rembrandt. Là, la peinture met l'accent sur le paysage, hein, en termes de proportion. Le cadrage est différent, le couple est réduit à une proportion beaucoup plus petite. On a un bosquet en bordure de la mer avec un ciel assez nuageux au loin, une silhouette d'édifice aux lignes fantomatiques, une atmosphère globalement rurale avec un attelage, des chevaux de trait, un char ou une charrue. Donc ce qui a intéressé le peintre, c'est manifestement de placer le couple à l'intérieur d'un paysage qui prend une importance notable, avec des effets de clair-obscur également. Et puis finalement un ray lumineux sur la partie gauche en bas, qui met en évidence le couple de l'animal et de sa fiancée, qui se détache sur la masse sombre de la plage à gauche, avec une théâtralisation du départ qui s'effectue dans une atmosphère cette fois-ci pathétique. On voit les bras levés au ciel de l'ami qui se trouve avec sa robe bleue, la stupeur des visages qui sont tournés vers la scène de l'enlèvement, qui traduisent du coup sa promptitude, pendant que les sabots du taureau entament leur première foulée. Et on a également un corps à corps fougueux et fusionnel d'Europe avec le taureau. Donc on a l'impression qu'elle s'accroche pour ne pas tomber. Quant à sa robe, vous voyez que cette fois-ci, elle est pourpre, hein, d'un rouge vraiment très sombre. Donc Rembrandt a réussi à suggérer ici la vitesse de l'enlèvement qui bouscule la tranquillité d'un paysage plutôt étal. Là, je dirais qu'on peut parler d'un ravissement au sens propre et figuré, hein, parce que être ravi, c'est être enlevé, mais c'est aussi être séduit. Donc ici, on a, je pense, le double sens qui est mis en évidence de manière tout à fait patente. Une fois que le couple se retrouve sur les vagues, il voyage. Et Moskos va aussi nous décrire les conditions de cette traversée. Et ce voyage, vous savez que c'est un itinéraire d'un espace géographique à un autre, mais pour le poète de langue grecque, il va décrire ce voyage d'une façon différente, en nous faisant comprendre que certes, c'est un passage, mais peut-être moins d'un territoire à un autre que d'un statut à un autre, du statut de jeune fille à celui de femme. Et donc ce voyage va être dépeint comme la première phase d'un hymen, d'un mariage, avec une abondance de divinités, de dauphins cabriolants, comme on l'a vu dans l'un des tableaux qui précédait, avec toutes formes de néréides qui vont former un cortège nuptial empreint de gaieté et de légèreté au milieu de l'élément marin. Donc une interprétation de ce mythe totalement différente de ce que je vous ai dit en introduction, consiste à voir dans ce mythe les différentes phases du parcours initiatique de la jeune fille depuis l'adolescence jusqu'au mariage et à la maternité. Et donc, ce mythe est alors associé à l'espérance d'une progéniture masculine, d'une fécondité du couple, etc., etc. Et la postérité iconographique de ce mythe est alors remarquable, notamment du point de vue de la phase de l'enlèvement, avec tous les implicites que je viens de détailler. La postérité iconographique du mythe est absolument fascinante et très abondante, dans la mesure où les artistes ont laïcisé le mythe en enlevant les éléments idéologiques et politiques pour se concentrer souvent sur l'aventure galante, sur l'histoire d'amour qui unit les deux personnages. Alors, je vous donne là une représentation qui se trouve conservée au château de Blois, avec un tableau qui est, dont je pense que certains d'entre vous le connaissent. Et vous avez là un tableau qui joue du contraste saisissant entre l'aspect sombre du décor, puisque vous avez une mer relativement foncée, et la luminosité des protagonistes. Avec cette couleur jaune-orangée de la jeune fille, dans la Rome antique, le mariage se faisait non pas avec une robe blanche, comme on le fait aujourd'hui, mais avec une robe de couleur safran. Donc je pense que le choix de la couleur ici n'est pas fortuit. La jeune fille a une attitude spontanée et confiante. La composition du tableau est tout à fait équilibrée, sage, rectiligne, horizontale, avec deux parties. Une partie donc en dessous correspondant essentiellement à l'élément marin avec le dieu et la jeune fille et les poutis tout autour, et puis au-dessus le paysage qui forme arrière-plan avec arbres, rochers, monuments antiques, artificiels, marmonieux. Et tout cela forme une scène paisible avec la complicité des dauphins et des amours qui forment un cortège nuptial, joyeux et amical. Néanmoins, le contexte géographique, historique et culturel dans lequel s'élabore ce texte poétique, a incité les chercheurs à formuler des interprétations politiques. Donc là, je reviens à la politique. Je quitte le poème de Moskos qu'on a épluché en détail pour revenir cette fois-ci à l'archéologie et à d'autres témoignages, notamment en rapport avec l'île de la Sicile. La Sicile est l'objet de rapports tendus entre colonies grecques et phéniciennes, et elle se trouve ensuite l'objet d'une lutte entre les Carthaginois et les Romains lors des guerres puniques. Donc c'est vraiment un territoire au cœur de toutes sortes de convoitises. Il se trouve qu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, on a sculpté à nouveau ce panneau qui se trouve dans un temple dédié à Héraclès ou Apollon à Célinonte, au sud de la Sicile. Et nous avons une représentation d'Europe qui a donné lieu à plusieurs interprétations. En tout cas, nous voyons qu'en Sicile, le mythe est connu dès le VIe siècle avant Jésus-Christ, donc bien avant Moskos. Le taureau semble fouler à ses pieds des corps, et on a beaucoup hésité sur l'interprétation. Cette image peut s'interpréter comme la manifestation d'une volonté politique de célébrer l'union des Grecs contre les barbares. Et donc, ceux qui seraient foulés aux pieds, ce seraient les Carthaginois, ou bien les Phéniciens, ou bien les Amazones, ou bien les Perses. Et on a pu lire cette image comme la représentation d'une union européenne, où européen signifie grec, contre tous les autres étrangers. C'est l'une des interprétations. Autre lecture, radicalement différente. Je vais achever de vous perdre à la fin. J'espère que vous ne mélangerez pas tout, mais c'est un petit peu volontaire de ma part. C'est pour vous montrer qu'un mythe, c'est aussi cette multiplicité d'interprétations. C'est ce qui fait qu'on en parle aussi. S'il n'y avait qu'une interprétation, finalement, la conférence serait déjà terminée. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure on se donne. Je me souviens que les portes de l'espace Mendès France ferment dans une heure pile. On va laisser un temps pour le débat, bien évidemment. Mais là, je peux moduler en fonction des consignes. On se donne jusqu'à 20 heures? D'accord, très bien. Alors, une autre interprétation vraiment complètement différente, mais dont je vous avouerai qu'elle a mes préférences, viserait à voir dans cette image une dette que les Grecs auraient contractée à l'encontre des Phéniciens. Et là, il faut se tourner vers les prouesses et les talents qu'avaient été ceux des Phéniciens. Est-ce que vous savez par quoi les Phéniciens étaient connus? Ils ont été célèbres pour... Alors, pas exactement... Le commerce, hein. Ils ont été des commerçants redoutables, ils ont conservé d'ailleurs ce talent. Le commerce, ils ont d'ailleurs répandu leurs produits par voie maritime. Donc ils sont célèbres pour l'invention aussi, pour toutes sortes d'inventions dans le domaine maritime, notamment le calfatage des bateaux. Et puis il y a une autre invention très très importante qui est en rapport avec ce que vous évoquiez, madame, c'est l'invention de l'alphabet. Or, le premier caractère mis au point entre le XVIe et le XIIe siècle avant Jésus-Christ par les Phéniciens, c'est Aleph. Et Aleph, c'est la lettre qui a donné dans l'alphabet grec Alpha, qui a donné dans l'alphabet latin le A. Et ce mode d'écriture va révolutionner l'écriture par rapport aux autres pratiques, comme les hiéroglyphes égyptiens qui étaient plus compliqués, ou le cunéiforme babylonien. Et on dit, les spécialistes disent, que l'invention de l'alphabet a mené à une démocratisation de la communication écrite. La communication écrite se répand alors plus facilement par le biais, et avec elle la communication des idées se répand plus facilement par le biais d'un système graphique simplifié. Or, si on pousse plus loin l'analyse, Aleph est non seulement la première lettre de cet alphabet, mais c'est aussi le nom du taureau dans la langue sémitique, de la même façon que la deuxième lettre, Bet, qui a donné Beta, désigne la maison. Donc cette lettre est figurée au départ par une tête de taureau stylisée, ce qui vous explique que, selon certains chercheurs, le voyage de Zeus déguisé en taureau figurerait métaphoriquement le voyage de l'écriture, la circulation des idées dans l'espace méditerranéen et le partage des connaissances. Alors, si je vous avouais ma préférence pour cette interprétation, c'est qu'elle évince le contexte de l'antagonisme entre les peuples au profit, au contraire, d'une union par le biais justement d'une circulation des idées. Quoi qu'il en soit, que l'on choisisse l'interprétation du conflit belliqueux ou de l'opposition entre l'Occident et l'Orient, ou que l'on opte plutôt pour le partage des connaissances, le couple du taureau et de la princesse orientale figure dans toutes les interprétations possibles et imaginables un métissage ethnique dans le bassin méditerranéen. Donc c'est une magnifique histoire. Et le mythe devient de toute façon un symbole des contacts, des liens, des brassages de pratiques dans le bassin méditerranéen. Nous allons descendre maintenant à la réception du mythe par les Romains, parce que sans les Romains, les transmissions culturelles ne seraient pas ce qu'elles ont été. Et les Romains ont joué, eux aussi, un rôle fondamental, notamment avec le texte d'Ovide qui figure dans l'exemplier que j'ai distribué. Mais avant de parler d'Ovide, je vais vous montrer une représentation qui date cette fois-ci du 1er siècle de notre ère. Et ne tournez pas la tête, ne partez pas vers le torticolis parce que l'image est dans le bon sens. Contrairement à ce que vous croyez, vous avez été induit en erreur par l'indication d'Orbis Habitabilis qui se trouve sur le côté, mais en réalité, la carte est dans le bon sens telle qu'elle est. Qui est l'auteur de cette carte En tout cas, c'est une carte qui est éditée dans le volume d'un géographe qui est le plus ancien géographe romain connu. Ce plus ancien géographe romain, c'est Pomponius Mela, qui était originaire d'Algésiras en Bétique, en Espagne. Donc je vous fais voyager ce soir. Donc, c'est un écrivain de langue latine qui vit au 1er siècle après Jésus-Christ, qui est originaire d'Espagne et qui serait contemporain de l'empereur Claude et qui présente dans son ouvrage qui s'intitule La chorographie un état des lieux le plus complet des connaissances que l'on a à l'époque en matière de géographie. Et son ouvrage est écrit dans un style très très sec, très méthodique. C'est franchement moins agréable à lire, je trouve, que l'histoire d'amour que je vous ai photocopiée. Mais enfin, si vous avez envie, si vous intéressez à la géographie antique, il faut aller voir la chorographie de Pomponius Mela. Alors, comment représente-t-il la Terre? Et bien, comme vous le voyez ici, avec ces trois continents. Vous voyez donc les trois indications. Donc on a ici en bas Africa. On a ici l'Asie, Asia. Et puis on a ici l'Europe et Europa. Et puis le monde est entouré par l'océan en vertu de ce que je vous ai dit tout à l'heure. On est quelques décennies après la période augustéenne. La période augustéenne, c'est celle de l'émergence d'une nouvelle forme de gouvernement, le principat, qui donnera bientôt naissance à l'Empire romain. Et le dirigeant qui est à l'initiative de ce changement politique majeur s'appelle Octave Auguste, c'est l'héritier de Jules César. Et selon l'hypothèse d'un chercheur, Auguste aurait repris à son compte la propagande des Macédoniens dont je vous parlais tout à l'heure pour déplacer le centre de gravité vers Rome, au cœur d'une nouvelle union européenne qui cette fois-ci a pour centre Rome, à l'intérieur d'un empire romain qui va fédérer ses provinces autour d'une capitale, Rome, aux ambitions impérialistes. Et donc le mythe d'Europe continue à voyager dans les textes et l'iconographie avec cette fois-ci toutes sortes d'attestations que l'on va retrouver sur un territoire beaucoup plus à l'ouest de ce que l'on a vu au début de la conférence. Donc on a des témoignages chez Martial, chez Virgile, chez toutes sortes d'auteurs. Et là, voici une fresque qui a été retrouvée à Pompéi. Grâce à l'éruption du Vésuve, si j'ose dire, ou à cause de l'éruption du Vésuve. Donc là, on a cette fois-ci un témoignage des débuts de l'Empire romain avec le mythe d'Europe qui est représenté donc sur cette fresque. Vous voyez donc un décor extrêmement hiératique, architectural paysagiste, sans perspective, avec beaucoup de statisme, une disposition très équilibrée des personnages. Le taureau est au centre, dans l'axe de la colonne, avec un arbre derrière lui tout en haut, tout au fond. Le taureau est de trois quarts face, planté sur ses quatre pattes bien solidement, bien sage. Les Romains aiment l'ordre, comme vous le savez. Et Europe, de son côté, est assise en Amazone, les jambes pendantes, légèrement renversées vers l'encolure de l'animal. Elle relève un pan de sa tunique. Sa tunique est dans des coloris très, très clairs. On a globalement une grande harmonie de couleurs. Et puis, à côté, on voit une jeune fille qui s'interroge, mais qui reste impassible, tandis qu'une autre, plus hardie, accourt pour caresser le taureau, avec un péplos de couleur grenat qui glisse le long de ses épaules. Et il n'y a pas la mer, il n'y a pas la prairie. Donc on a ici une composition vraiment qui met l'accent sur l'architecture, avec une source, une colonne, un bosquet, et qui font songer ici plutôt à un espace sacré, consacré à une divinité. Par ailleurs, le cadre est en trompe-l'œil, puisque la colonne et le relief de la paroi rocheuse imitent un faux marbre, par un jeu complexe de tonalités monochromes. Donc tout cela suggère l'harmonie de la nature, et nous voyons que le sujet mythologique est subordonné donc à ce décor de fond. Donc le mythe d'Europe a voyagé jusqu'à l'Italie, et dans la littérature latine, ce mythe est repris par deux grands poètes de la période augustéenne. Donc là, je reviens un petit peu plus haut dans le temps. Je remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ avec Horace et Ovide. Alors Horace, je vous l'ai peut-être mis, oui, je vous l'ai mis aussi donc dans l'exemplier. Donc lui, il va consacrer l'union des deux visages d'Europe, le mythe et le continent, dans une ode dédiée à une certaine Galatée qui s'apprête à partir en voyage et qu'il compare donc à Europe. Et il prend ses distances par rapport aux enjeux politiques pour écrire ce qu'on appelait à l'époque un propempticon, c'est-à-dire un poème dans lequel l'auteur adresse ses souhaits de bon voyage à la destinatrice du texte, Galatée. Et à l'intérieur de ses souhaits de mon voyage, il insère donc l'exemple d'Europe en lui disant « Voilà, je te souhaite de faire un meilleur voyage qu'Europe. » Et ce qui transparaît dans la version d'Horace, c'est une insistance sur la douleur de la jeune fille et les périls de la navigation. Cette fois-ci, le rapte est pensé dans les termes d'une rupture avec la patrie et d'un voyage dans une mer pleine de monstres, de dangers, d'abîmes effrayants sous la morne clarté de la lune, avec une jeune fille qui est totalement épouvantée par ce qui lui arrive. Donc là, je pense que c'est pas mal de mettre en relation le texte d'Horace avec cette représentation du Titien qui traduit remarquablement bien le trouble de la jeune fille, avec une posture qui, cette fois-ci, va suggérer très clairement le viol. Je n'avais pas prononcé le terme, j'avais tout à l'heure parlé de rapte de manière euphémisée, mais chez Horace et dans le tableau du Titien, la tonalité est beaucoup moins poétique et gracieuse que celle que nous avons vue dans les textes précédents. Et notamment chez Horace, lorsque la jeune fille arrive en Crète, elle exprime ses sentiments d'effroi au Dieu des dieux, notamment sa crainte d'avoir vaincu sa piété dans un moment d'égarement, sa douleur d'avoir trahi les siens, son désir de mourir pour ce qu'elle estime être sa faute, et un doute sur la réalité de ce qu'elle vit. Donc elle a envie de briser les cornes du taureau, elle a envie d'abandonner son corps aux bêtes sauvages ou à la tempête, et elle a peur de devenir une esclave ou la concubine d'un maître qu'elle ne s'est pas choisi. Donc cette fois-ci, vous voyez que dans la réécriture du poète latin, il y a un intérêt, et c'est finalement nouveau. On n'avait jamais vu cela jusqu'alors dans les textes grecs. Il y a cette fois-ci chez les Romains un intérêt pour ce que peut ressentir la jeune fille. Et cet intérêt pour la subjectivité arrive à un moment de la littérature latine où l'élégie est arrivée et on s'intéresse justement au domaine des sentiments. Et donc Horace termine de manière plus légère, hein, en faisant intervenir la déesse de l'amour Vénus, qui va inviter la jeune fille à se départir de son angoisse et de sa colère, en lui apprenant qu'elle sera bientôt l'épouse de Jupiter, qu'elle laissera son nom à une partie du monde et tout est bien qui finit bien dans le meilleur des mondes divins possibles, si vous voulez. Mais quand même, entre-temps, on a pris la peine de s'intéresser à ce que ressentait la jeune fille. J'en arrive à Ovide, c'est parfait, on est vraiment bien dans le timing, avec un auteur qui a été une source d'inspiration privilégiée pour les artistes de l'Europe renaissante et moderne. Son texte est sans doute légèrement postérieur à celui d'Horace, en tout cas on trouve des échos d'un texte à l'autre, et contrairement à Horace, Ovide met l'accent sur la séduction du taureau, sa musculature athlétique, sa puissance, son esprit de conquête, et par-delà l'ironie discrète et légèrement subversive de la part du narrateur à l'encontre de l'impunité d'un dieu violeur qui prend le masque de l'animal, il va insister sur la séduction irrésistible du taureau. Ovide, c'est le poète de l'amour, hein, c'est le maître de l'élégie érotique latine. Donc il choisit la voie de la légèreté en peignant un dieu qui va se départir de sa gravité dans un récit où transparaît son goût pour ce qu'on appelait sa lascivité, son goût pour la frivolité, la légèreté. Et finalement, il va insister sur la beauté des corps et le dieu devient alors un parangon de la séduction animale. Alors évidemment, c'est provocateur, hein, parce que mettre un dieu dans la position régressive de l'animal, c'est de la part d'Ovide un petit jeu qui consiste à laisser entendre que même les dieux peuvent régresser. Il y a toujours chez Ovide beaucoup de provocations dans ce mécanisme-là, mais la dimension érotique va prendre le premier plan dans ce mythe, et le poète s'intéresse au corps dans tous ses états, puisque ce texte est tiré d'une épopée qui va décrire la métamorphose des corps. Quant au déroulement du récit, si on s'intéresse cette fois-ci aux aspects narratologiques du récit, Ovide ne s'intéresse pas à toutes les phases du récit. Il s'intéresse simplement au portrait du dieu, à la phase d'approche et de séduction entre les deux partenaires, puis au rapt. Et une fois que la jeune fille est enlevée, il ne prend pas la peine de raconter le voyage, le voyage sur les flots, l'arrivée sur l'île de Crète, etc., etc. C'est simplement le moment du flirt qui l'intéresse. Ce moment-là de prise de contact entre les deux partenaires et le moment où la jeune fille est enlevée, c'est-à-dire la part de séduction et aussi la part d'illusionnisme, puisque la jeune fille n'a pas encore compris par qui elle était enlevée. Donc le texte, cette fois-ci, est doté d'un caractère fortement visuel et suggestif, et on peut supposer qu'Ovide s'est inspiré d'une représentation iconographique. Alors, on le lira probablement en cours et probablement pas aujourd'hui. Mais je vous l'ai mis à la fin pour le public de l'espace Mendès France, que je remercie d'être venu ici. Si vraiment la curiosité vous brûle de savoir les mots qui se trouvent dans les trous, puisque j'en ai profité pour bâtir une séance de cours, le texte figure sous la forme d'un texte à trous, on s'amusera à compléter les trous. Je pense que vous trouverez facilement quand même, hein, la fille Régis, la fille du roi, par exemple. Voilà, je pense que les trous sont faciles à combler. Donc nous jouerons en cours, si tant est que ce soit vraiment un jeu pour les étudiants. On essaye d'en faire un jeu, néanmoins. Si vraiment vous voulez en savoir plus, je reste joignable par-delà l'espace de la conférence. Je pourrais vous laisser mes coordonnées, bien évidemment. Donc j'en arrive à la dernière phase de cette conférence, avec la diffusion du mythe dans le bassin méditerranéen. Parce qu'avec Ovide, évidemment, ça n'est pas fini, puisque je vous ai dit qu'il y avait à la fois la littérature, l'archéologie, avec les vases, les sculptures, les poteries, les jardins, mais aussi les mosaïques et tout ce qui a pu relever de l'iconographie. Et donc, entre le 1er et le 4e siècle après Jésus-Christ, il y a une quantité astronomique de pavements qui se sont trouvés diffusés dans toutes les provinces d'un empire qui est devenu l'Empire romain. Donc l'Empire romain, c'est la Gaule, avec l'espace que nous occupons aujourd'hui, mais aussi la Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre actuelle, une partie de l'Afrique, l'Espagne, la Pannonie, ce que nous appelons aujourd'hui l'Europe, et puis toutes sortes de provinces qui se trouvent dispatchées tout autour du bassin méditerranéen. Et donc on a retrouvé 44 mosaïques qui représentent le mythe d'Europe. Donc vous voyez, la diffusion est vraiment très 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 importante. La valeur esthétique de ces mosaïques est indéniable. Je vous en montrerai deux, on n'en a pas les 44, rassurez-vous. Et en même temps, ces mosaïques sont dotées d'une valeur symbolique. Et le symbole auquel elles sont associées, c'est l'espérance d'un bonheur éternel et d'une fécondité du couple pour le propriétaire de la maison qui choisit de disposer ce pavement, en général, dans une pièce de la maison qui se trouve soit dans l'entrée, soit dans la salle à manger, soit encore dans les chambres. Alors voici, alors ça c'est pas du tout celle que je voulais vous montrer maintenant. Voici une mosaïque qui vient de l'île de Kos, donc une mosaïque grecque, dans laquelle vous voyez une Europe qui adopte le style d'une Néréide, d'une nymphe des mers, qui est renversée sur le dos de sa monture, et vous voyez donc en dessous un joli petit dauphin, avec quelques petits filets qui représentent les vaguelettes, le taureau qui tourne la tête vers elle, un petit personnage ici, c'est un petit peu sombre, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, vous avez deviné ce que c'est ? Un petit personnage qui porte un arc et une flèche, c'est Cupidon, hein ? Un petit Eros qui va porter un flambeau désignant l'union bientôt consommée entre les deux protagonistes. Donc elle est dévêtue Europe hein, cette fois-ci. Et elle a donc des jambes fines, des hanches larges, des seins hauts et ronds. Et voilà une représentation tout à fait sensuelle et voluptueuse, avec un traitement relativement géométrique des formes. Et ici, on a vraiment la volonté de représenter le transport amoureux qui va constituer une voie d'accès pour parvenir à la félicité. Là, vous avez une mosaïque qui a été retrouvée à Byblos. Donc, on repart du côté du Liban avec une mosaïque rectangulaire et cette fois-ci, représentation totalement différente avec l'animal qui bondit vers la droite sur les flots, qui se cabre en avant avec les sabots légèrement pointus. Les pattes arrière sont immergées, la queue se redresse en spirale. L'animal dégage une impression de force. Ses cornes sont recourbées en croissant de lune. Ses naseaux frémissent d'impatience. Quant à Europe, elle est calme et détendue. Sa tunique est agrafée sur la gauche. Et vous voyez un voilage qui dessine une courbe, comme on l'a vu tout à l'heure dans le tableau maniériste. Donc ici, on a le profil d'une princesse sidonienne au port altier, ceinte de diadèmes et de bijoux, avec une expression plutôt langoureuse. Et là, je vous montre une représentation totalement différente dans son style et qui se trouve à Lullingston, en Grande-Bretagne. Donc vous voyez, jusqu'au nord de l'Europe, on retrouve ici une mosaïque qui tapissait une estrade correspondant à l'emplacement des lits que l'on disposait dans les lieux de réception pour les banquets. Donc vous avez ici le couple au centre qui est entouré par deux héros, l'un qui brandit une torche enflammée, l'autre qui se laisse tirer par le taureau qui s'accroche à la queue. L'animal est lancé à vive allure, il est en train de nager ou de bondir, tandis qu'Europe se trouve assise en tenant à nouveau donc un voilage en forme de boucle. Et du point de vue des coloris, on a ici une polychromie limitée à trois couleurs, donc le rouge, le noir, le blanc. Et tout en haut, on a deux vers de l'Énéide de Virgile, dans lesquels il est écrit que si Junon avait vu la nage du taureau, sans doute serait-elle allée jusqu'aux demeures éoliennes. Donc ici, on a finalement une représentation par laquelle le maître de maison est soucieux d'accueillir ses hôtes dans une atmosphère joyeuse. Il s'agit d'attirer la prospérité sur sa maison et on peut déduire de cette mosaïque que le propriétaire était un humaniste, connaisseur de la littérature, pénétré de mythologie et de culture gréco-romaine, et qu'il s'agit pour lui, avec cette image d'Europe, de représenter un gage de bonheur pour sa maison, avec un personnage féminin qui triomphe de tous les périls et qui va assurer la prospérité dans sa maison. Alors, le temps est maintenant venu d'en arriver à la fin de, la de cette conférence. Donc, j'espère que vous avez survécu. Je vais conclure bientôt. Alors, je vais conclure d'abord sur la destinée iconographique du mythe. Alors là, vous voyez toutes les mosaïques que l'on peut trouver. Celle-ci se trouve à Arles. Ici, c'est Antioche. Là, c'est Sparte. Là, c'est Tor Treteste. Donc, vous voyez toutes sortes d'endroits toutes sortes de représentations jusqu'à celle de Botero. Donc, avec une Europe un peu obèse, hein, peut-être qu'elle a oublié de manger 5 fruits et légumes par jour. En fait, du 16e au 21e siècle, les artistes on peint l'enlèvement soit comme un rapt violent, soit comme un cortège nuptial. Ce sont vraiment les deux orientations principales. Et le motif amoureux est prépondérant. Donc, Europe est tantôt une victime apeurée, tantôt attirée par le voyage vers l'inconnu. Soit on gomme la violence, soit on la souligne. Et l'arrivée en Crète est marquée par l'ambivalence entre l'attirance pour l'inconnu ou bien la crainte de l'étranger. C'est soit l'un, soit l'autre. En tout cas, il y a ici une femme continent qui représente aussi, parfois, les valeurs liées à une terre en particulier et qui peut donner lieu à un discours politique et idéologique dans le cadre d'une propagande, hein, comme on l'a vu avec les deux hypothèses dont, auxquelles j'ai fait allusion. Donc, je récapitule maintenant les éléments parfois disparates que nous avons rencontrés en chemin en nous plongeant dans le contexte de l'émergence du mythe et de son déploiement durant la période large de l'Antiquité gréco-latine. Le premier constat que vous retiendrez, c'est que l'hypothèse d'un mythe unique d'Europe avec une signification originelle et un destin unique n'existe pas. Hein ? Cette hypothèse qui aurait été confortable pour des raisons de mémorisation s'évanouit devant la multiplicité des références. Comme je vous l'ai dit, un mythe, c'est un mode de représentation textuel, figuré, qui contient une pluralité de sens et qui véhicule plusieurs messages avec différents degrés de symbolisme et qui va se constituer progressivement à mesure qu'il s'enrichit de ses supports. Hein ? Le mythe, c'est la somme de ses composantes. Mais les composantes peuvent faire évoluer la signification de l'ensemble. C'est ce qui est déroutant. Donc on constate des différences majeures entre l'archéologie, l'iconographie, la littérature. Deuxième point, le vocable d'Europe est probablement d'origine phénicienne et le mythe est en rapport avec la pénétration de l'Asie vers l'espace que nous appelons aujourd'hui européen. Il est lié donc au voyage et au métissage culturel dès le départ. Quant au lien entre le territoire et la légende fabuleuse, il semble s'être élaboré progressivement. Vous avez vu des interprétations variées de ce mythe, une interprétation politique d'alliance entre cités grecques contre les barbares, interprétation culturelle avec la dette de l'Occident à l'encontre d'une invention déterminante, l'alphabet, avec le processus de migration de cette technique d'Est en Ouest, et puis une troisième interprétation que je qualifierais plutôt d'anthropologique, avec une réflexion sur le statut de la jeune épousée, qui va passer du statut de vierge à celui de mère de famille. Sur le plan iconographique, on constate un processus similaire à celui qu'on vient de décrire pour les textes littéraires, avec le déploiement de plusieurs motifs dans une tradition qui le fait évoluer. Donc les illustrations étaient pléthoriques, mais le motif favori des artistes est celui du voyage en mer, plus même que le moment du rapt. Et ça, c'est intéressant. Après la Renaissance et avec l'entrée dans l'époque moderne, donc à un moment où la conscience d'appartenir à un espace commun possédant des traits culturels partagés, les artistes maniéristes baroques ont multiplié les représentations figurant le mariage de l'héroïne et du dieu en retenant principalement un message d'amour et en gommant la contrainte et la violence du rapt. Donc, Moskos avait ouvert son poème sur un rêve. Quel rêve pourrions-nous former en matière de conclusion ? Alors nous voyons que l'Europe continue à se chercher, hein, elle fait l'objet encore de toutes sortes de débats. Je disais en introduction, doit-elle se limiter à une construction financière ? Vous avez sans doute pressenti la manière dont je répondrai à cette question. En tout cas, voici par exemple un exemple de ce que j'ai lu dans la presse juste après le vote du Brexit. C'était il y a 2 ans. Donc je cite ce que j'avais relevé. Hein. Les progrès que nous avons réalisés en matière d'ouverture, de tolérance et d'interconnexion ne sont pas acquis. Nous devons continuer de les chérir et de les faire avancer sans jamais relâcher notre attention. Les institutions que nous bâtissons et qui nous unissent doivent vivre dans nos cœurs et nos esprits. Elles ne peuvent pas rester des outils bureaucratiques purement fonctionnels. Nous avons besoin d'une éthique, d'un esprit commun et d'une culture de solidarité entre les humains pour nous préserver du racisme et du nationalisme qui ne cessent pas de nous hanter. Alors on pourrait rêver d'une éducation par la culture, par un humanisme qui transcende les nationalismes. Donc j'ai envie de terminer par une pirouette, parce que vous vous souvenez du mot grec que j'avais mis au tableau, Et vous vous souvenez peut-être de la façon dont je l'avais prononcé. En grec, on ne disait pas Europe. Et en latin, on disait Europa. Mais en grec, on disait Europae. Et Europae, on pourrait l'écrire avec une grosse faute d'orthographe, hein, en mettant à la fin P-A-I-X. Ce serait quand même plus joli de voir dans le voyage représenté par Botero, ici avec ces deux personnages grassouillés, une alliance confortable entre des peuples qui accepteraient de se fédérer autour d'idées communes dans un esprit de partage. Alors j'ai encore deux petites choses à vous dire très rapidement. C'est que ce mythe fait l'objet donc de représentations ultra contemporaines. J'étais passée rapidement tout à l'heure sur une image, je reviens très 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 vite. Cette image-là, elle date de... elle a été photographiée, c'est une photo qui a été réalisée par un collègue, professeur de langues anciennes qui travaille dans un lycée de Montpellier ou Toulouse. J'ai un doute tout à coup. Je vous donnerai son nom si vous le voulez. C'est Jean-Luc Ramon. Et donc, voilà sa représentation du mythe d'Europe. Hein, il a travaillé avec ses étudiants et il illustre le texte d'Ovide que nous allons commenter en cours. Donc, c'est vous dire que c'est vraiment la création contemporaine et vivace. Et le mythe, qui vient de très, 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 très loin, continue à inspirer des gens. La deuxième chose aussi que je voulais vous dire, c'est que le mythe d'Europe, et notamment le texte d'Ovide sur lequel nous travaillerons, fait l'objet d'un festival européen qui s'appelle Europe in Love et qui va donner lieu à des vidéos qui seront postées sur Internet bientôt. Le festival aura lieu le 22 et le 23 mars dans tous les pays européens. Et il s'agit pour les participants de ce festival de lire le texte d'Ovide que je vous ai mis dans l'exemplier en latin et de poster la vidéo sur Internet. Donc d'ici quelques mois, il y aura plein de vidéos qui vont être postées dans tous les pays européens. J'ai lu de la même façon des vidéos qui avaient été postées il y a un an ou deux sur le texte d'Homère, qui avait fait de la même façon l'objet de mises en voix et de performances vocales qui sont ensuite postées sur YouTube. Donc voilà, l'Antiquité a encore quelques jours de rayonnement devant elle. Et je termine enfin en vous remerciant donc de votre présence attentive et de l'accueil que nous réserve les collègues de l'espace Mendès France. Merci à vous.
Alors, y a-t-il des questions dans la salle? N'hésitez pas, hein, on a encore un petit peu de temps, donc la parole est à vous.
Bonsoir. C'était juste une question sur le concours dont vous parlez à la fin.
Oui.
C'est l'intégralité du texte qui est sur l'exemplier ou c'est qu'un extrait ça, du texte?
Alors, moi, ce que je vous ai mis, c'est la totalité du texte d'Ovide.
Qui va servir.
Et le festival va porter effectivement sur ce tronçon.
Parce que là, il y a marqué vers 843.
Oui.
Mais c'est uniquement sur ces vers-là.
C'est exactement D'accord. cette portion-là. Oui, Merci. Parce que finalement, Ovide n'a pas été prolifique. Il l'est d'habitude, mais sur Europe, il a été relativement concis. Okay. Et il s'est intéressé aux aspects. Ça n'est pas un Italien pour rien. Hein. Il va brosser un portrait de Jupiter qui est vraiment celui du bel homme, mais juste avec une forme animale. Mais c'est vraiment presque le macho dans toute sa splendeur.
Okay. Et où est le taureau là sur la photo?
Alors le taureau, en fait, il se limite. Alors c'est vrai que là, le noir est trop noir. On le voit un petit peu mieux sur l'écran que j'ai ici. Le taureau est représenté plutôt comme une banquette, vous avez raison, parce que le collègue qui travaille avec ses étudiants et il n'y a pas de taureau parmi ses étudiants, tout simplement. Donc il use de toutes sortes d'artifices. Mais pour la métamorphose, par exemple, en fait, il s'est amusé à photographier les mythes des métamorphoses d'Ovide. Et par exemple, il a réussi à photographier la métamorphose de Daphné en arbre ou la métamorphose d'Arachné en araignée. Mais pour Europe, il a représenté, effectivement, il a usé d'un subterfuge.
Oui, vous nous avez montré de nombreuses représentations qui nous ont fait rêver à travers l'art grec, l'art romain, à travers le temps. Est-ce que l'on peut donner une interprétation symbolique à ce mouvement du voile au-dessus de la tête d'Europe qui fait une sorte de courbe? Alors, vous en avez parlé en disant que ça permettait d'encadrer l'héroïne, mais est-ce que vous pouvez développer un petit peu ce sens symbolique pour cet objet ?
Alors, je vous retournerai la question, ce qui n'est pas un bon procédé, je l'avoue. Mais je suis partie d'une intuition, en fait, parce que j'ai repéré qu'effectivement, aussi bien sur les mosaïques que dans plusieurs tableaux, il y a ce mouvement de boucle qui me fait penser à un anneau. Et donc, j'y vois à la fois une espèce de bulle qui va enfermer le couple dans une unité presque cellulaire. J'y vois quelque chose aussi de symbolique autour du motif de l'union. Après, si je vous disais en plaisantant que j'allais vous retourner la question, c'est que quand on entend le voile, on pense à toutes sortes d'autres possibilités d'interprétation. Et donc, quelles seraient les vôtres ? Et on va parler d'un vous collectif, mettre à contribution peut-être l'assemblée, parce que le voile, effectivement, c'est d'abord un tissu. Et on sait que au moment de la défloration, les tissus sont parfois exposés. Est-ce qu'il y aura un lien avec cela ? Je ne sais pas. J'y pense tout à coup en cherchant avec vous, en explorant avec vous le motif. Il faudrait regarder la couleur du tissu aussi. En tout cas, je ne pense pas qu'il s'agit de voiler la beauté de la jeune fille, si c'est ce à quoi vous aviez pensé. C'était ça votre idée, non ?
Je pensais plutôt à la voile du navire, puisque ah oui, les deux
sûr.
Personnages...
Oui, oui. Tout à fait. Oui. C'est-à-dire qu'elle use finalement de cette voile pour être emportée à ce moment-là plus rapidement sur les flots.
Les étudiants, ils ont peut-être une idée, une interprétation. Non.
Les étudiants sont terrassés par leur journée de cours. Ils ont traversé ils ont descendu la rue du Pont-Neuf en migrant du campus. Ils ont fait une grande migration eux aussi, qui n'était pas prévue et à laquelle ils ne s'attendaient pas lorsqu'ils ont choisi cette UE5 de découverte. Ça aurait été de la découverte jusqu'au bout.
Une idée d'interprétation à partager. Et je voudrais faire le petit lien avec l'autocollant du drapeau européen qui se trouve juste au-dessus de vous, chère conférencière. Le drapeau européen, il est sur le spot. Voilà. La question est souvent posée, quelle est la symbolique des 12 étoiles, parce que ça ne représente pas forcément les 12 États. Et la symbolique de ce drapeau, c'est que c'est la construction européenne qui se veut à travers les 4 points cardinaux. Donc on fait le lien avec ce que vous disiez avant, avec l'Europe, avec l'Asie, l'Afrique, et puis la mer qui entourait, puisque c'était la seule chose connue à l'époque. Et puis les 4 points cardinaux, mais aussi une construction européenne à travers le temps, à travers hier, aujourd'hui et demain. Et les 4 fois 3, ça fait 12. Et donc le mythe de l'Europe, c'était magnifique parce qu'à travers les très belles représentations, on avait aussi bien la représentation du passé qui était à chaque fois réinterprétée avec le temps présent dans le, voilà, et qui, dans un avenir, pourrait être aussi être évoquée. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais partager cette petite interprétation et la notion du voile qui faisait un peu le lien comme le cercle, ce que vous aviez évoqué tout à l'heure.
Voilà, écoutez, merci pour le rapprochement. Je m'en servirai lors de la prochaine conférence en recyclant votre idée et le point de rapprochement qu'on peut faire en effet avec la circularité des étoiles du drapeau européen. Merci.
D'autres questions? Non, c'est bon. Bon, ben on va remercier Madame Jouteur et puis je vous souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci à vous.